interview avec Christophe Billard cette semaine, qui s'entretient avec le romancier Stéphane Lambert, auteur de deux romans sur Marc Rothko et Nicolas de Staël, publiés aux éditions Arléa, et d'une récente monographie de Nicolas de Staël publiée chez Gallimard, en écho aux deux expositions actuelles qui illuminent le Musée d'art moderne de la ville de Paris et la Fondation Louis Vuitton.
Bonjour, je retrouve Stéphane Lambert dans les murs de l'imprimerie IDEM à Paris, où nous avions l'occasion de vous accueillir pour une soirée des Amis d'IDEM. Stéphane, je voulais parler de vos deux livres, sur Nicolas de Staël, Le vertige et la foi, Marc Rothko, Rêver de ne pas être, et à l'occasion des expositions éponymes au musée de la ville de Paris et de la Fondation Louis Vuitton, replonger dans le côté créatif des deux artistes. Merci tout d'abord d'être présent aujourd'hui.
Ben, c'est un plaisir de venir dans ce lieu.
Lieu inspirant, effectivement. Mais vos livres le sont aussi, puisque en guise d'introduction, ce que je voulais juste remarquer, c'est que vos livres m'ont entraîné plus que jamais à vouloir revoir l'œuvre de l'un et l'autre des artistes et d'aller plonger dans les œuvres, dans les peintures de l'un et l'autre, à la lumière de vos écrits, et d'essayer de retrouver les émotions que vous avez partagées dans les écrits, dans la contemplation des œuvres. Alors c'est un espèce de cheminement que vous avez vous fait sur de Staël et sur Rothko. Dans ce cheminement que vous avez fait, qui est à la fois un cheminement physique, un cheminement d'historien, de chercheur pour travailler sur l'œuvre, qu'est-ce que vous pourriez nous partager finalement des similitudes qui existent entre ces deux peintres qui a priori ne sont pas forcément directement comparables et pourtant pas mal de convergences semblent exister dans la manière de l'un et l'autre pour créer, pour peindre?
Bien, en fait, justement, dans mon livre Le vertige et la foi, il y a un chapitre qui est consacré justement à ce rapprochement des deux peintres, un moment où je me trouve au musée des Beaux-Arts de Berne, je vois au loin un tableau que j'identifie comme étant un multiforme de Rothko, donc on peut voir d'ailleurs ces multiformes de Rothko qui sont des tableaux qu'il a fait dans son évolution d'effacement des motifs. Il y a une période où, avant d'être ces grands écrans de couleurs, les formes se diluent, en fait, et c'est ce qu'on appelle les multiformes. Et donc, je voyais ce tableau que j'identifie en multiforme, et en me rapprochant, avec en tête Rothko, je regarde le cartel et je vois Nicolas de Staël. Donc, il y a eu un moment, à quelques années de différence, puisque les multiformes de Rothko, c'est un peu avant les années 50, et le tableau que j'avais devant les yeux, c'était un atelier, je sais plus si c'est l'atelier Orange, peut-être, que Nicolas de Staël a peint à la fin, donc à l'automne 54. Et donc, c'est amusant de voir qu'effectivement, dans des parcours qui ont chacun leur logique, il y a à quelques années de distance un rapprochement formel. Après, c'est vrai que ce sont deux œuvres quand même formellement assez avec pas mal de différences, puisque Rothko a d'abord commencé par de la figuration. Plutôt de la figuration de l'ordre imaginaire, c'était pas du naturalisme du tout. Il inventait des sujets où à partir de lieux, il inventait un univers un peu
surréaliste, un peu
oui après surréaliste. Mais, par exemple, je pense à tous ces métros, ces vues de métro. Mais je pense que ça dit déjà quelque chose de son travail d'enfouissement,
de profondeur. Oui, c'est ça.
Il était attiré par le sous-sol, en fait. Ouais. Et donc il a d'abord fait quand même une quinzaine d'années de figuration avant de devenir abstrait. Et Staël, lui, ne parvenant pas justement à trouver une forme dans la figuration, il a tout de suite été dans l'abstraction avant de revenir à entre guillemets la figuration, parce que c'est un petit peu plus complexe que ça. Donc, d'une certaine manière, ils ont deux parcours un petit peu inverses de ce point de vue-là.
Inverse et croisé.
Ouais, inverse et croisé. Mais sinon, au niveau biographique, au niveau des personnalités, il y a beaucoup de choses en commun. Déjà, une chose assez incroyable, c'est l'origine et la et la fin. Ils sont tous les deux nés dans l'ex-Russie.
Oui.
Et ils ont dû en partir tous les deux pour des raisons différentes. Rodko à cause des pogroms, parce que donc il a été d'une famille juive, et donc il a migré, son père a migré aux États-Unis où la famille l'a rejoint, et Nicolas de Staël parce que il y a eu la révolution bolchevique et que son père était un grand aristocrate proche du tsar, et donc ils ont dû quitter. Et dans le cas de Staël, de manière encore plus dramatique, puisque ses parents sont morts très vite en exil. Et il a été accueilli par une famille bourgeoise en Belgique, à Bruxelles. Donc ils ont tous les deux, comme point de départ, la perte des origines, la perte de leur langue maternelle, et la perte des parents. C'est aussi valable pour Rodko, parce qu'en fait, le père de Rodko meurt très vite aussi,
c'est ça, oui.
Après l'arrivée aux États-Unis. Donc ça a quand même une incidence sur leur rapport à la création et à l'art, qui va devenir... leur terre d'accueil. Ils vont avoir vraiment un rapport très fort avec la création. C'est le lieu où ils vont pouvoir s'affirmer, prendre place dans la société, dans l'existence. Et puis leur fin, puisque tous les deux ont mis fin à leur jour, se sont suicidés, et à des âges différents. C'est des parcours quand même un peu différents, mais... il y a quand même cette forme d'excès dans leur personnalité, ce caractère excessif, radical, qui s'est marqué aussi, par exemple, dans leur rapport à au succès, qui est arrivé pour tous les deux...
Brusquement.
Brusquement, oui, c'est vrai, un peu
brutalement. Ils s'étaient pas préparés, en fait, au succès.
Ben, le succès les a complètement désorientés dans leur rapport à la création. Et donc, ça a été un séisme... dans leur vie, en fait.
Il y a le succès, enfin, il y a le rapport au succès, puis il y a le rapport aussi à l'argent, parce que le succès, c'est effectivement les admirateurs, la notoriété, il y a un moment dans votre livre sur le Vertige de la fin, vous parlez de la manière dont, finalement, de Staël a beaucoup de mal à accepter le fait de devenir riche quand il y a des expulsions, des ventes qui se font. Il a un rapport avec l'argent qui est compliqué, apparemment.
Non, c'est
plus subtil que ça.
Non, alors pour l'argent, il a besoin d'argent pour vivre.
Oui,
donc c'est pas l'argent n'intéresse pas pour avoir une vie
bourgeoise
ou d'avoir une Rolls. C'est de c'est pas Picasso du tout. C'est plutôt Giacometti. L'argent, ça sert à faire vivre les proches. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire à son galeriste. C'est tout l'argent qu'il gagne, c'est pour ses proches. Bon, il a acheté ce castelet à Ménerve. Il faut l'entretenir. Mais lui, il en profite pas du tout. Quand vous voyez la photo de son atelier à Antibes, qui a été prise après sa mort, il vivait de manière très dépouillée. Il avait même pas de lit. Il avait une sorte de couche.
Ouais.
Et Rodko est pareil. Il est mort d'ailleurs aussi après s'être séparé de sa famille. Il logeait dans son atelier. C'est pas des gens que l'argent peut sauver ou qu'une vie confortable peut sauver. Oui. Ils sont dans un rapport existentiel à l'art, et il faut qu'ils trouvent un sens à leur vie, puisque ce sens a été détruit au départ, en fait.
C'est ça, d'emblée.
Voilà. Et le rapport au succès, c'est plus ce qui les déstabilise, c'est que tout à coup, eux qui travaillent dans une forme d'urgence, de nécessité intérieure, qui ont été toujours à l'origine de leur création, c'est tout à coup
La commande vient de l'extérieur.
L'attente vient de l'extérieur. Et finalement, eux, ils ont peut-être eu des années de galère, mais ils étaient eux-mêmes dans cette période-là. C'était leur propre énergie.
Et ils étaient libres de créer, alors que
ils sont poussés, ils deviennent des sources de rentabilité pour le commerce. Ils sont dans une logique qui n'est plus la leur, en fait.
Esclaves de leurs commanditaires, mais c'est peut-être un mot fort, mais ils sont obligés de créer, du coup.
Ben,
c'est une sorte d'obligation.
Oui, mais ça change complètement leur quotidien.
Tout à fait. Ouais.
Ils entrent dans une tension qui n'est pas la leur propre. Et qui leur fait perdre leur repère et qui, surtout, chez Rodko, c'est assez flagrant. Par exemple, il a renoncé à une grosse commande, le fameuse commande des Seagram, qu'on peut voir d'ailleurs à l'exposition.
Le Vuitton, tout à fait.
Le Vuitton. Et ça, c'est bien symptomatique du sentiment dans lequel il était. On lui commande ses peintures pour ce restaurant de luxe à New York. Et en fait, après être revenu d'un voyage européen où il est allé notamment voir les Frangelico du monastère San Marco à Florence, il s'est dit, mais non, moi, je peux pas exposer mes œuvres dans un restaurant de luxe où ça ne sera que de la décoration pour des gens qui n'ont pas de rapport intime, voire spirituel avec ses œuvres, parce que lui, il était entièrement dans ses œuvres.
Tout à fait, ouais.
Et donc, c'est ça qu'il a perdu dans le commerce de l'art, c'est ce côté sacré de l'art.
Vous parlez du voyage de Rothko ou d'un des voyages de Rothko en Europe. Stahl va au Maroc, va aussi en Sicile. Rothko a fait ce voyage sur les terres italiennes et en Europe même deux fois, je crois. Est-ce que vous voyez dans la similitude de ces parcours le besoin de se raccrocher à l'histoire de l'art, à la peinture de la Renaissance italienne, à l'Antiquité latine comme une source d'inspiration pour l'un et l'autre?
Ah oui, alors c'est une source d'inspiration et une inscription dans une lignée, c'était très important pour eux. De nouveau, je pense que c'est lié à cette perte des origines. En tant qu'artiste, ils avaient besoin de s'inscrire dans une filiation, en fait. Et c'est vrai que Rothko était, de tous les expressionnistes abstraits, celui qui était le plus européen et qui se sentait vraiment dans le prolongement de tous les grands peintres de la Renaissance. Notamment, il avait un rapport très fort avec l'art chrétien, l'art religieux, et le fait qu'il ait eu ce projet de chapelle... En fait, bon, ça lui a été proposé par les Deménil, mais c'est une idée qui lui trottait dans la tête. Avant, il avait même failli acheter une chapelle en Angleterre. C'était une obsession pour lui, de fait, que l'art soit rendu à un rapport au sacré.
Au sacré, en fait. De nouveau, oui, c'est ça. Oui.
Que les gens puissent avoir une relation privilégiée, dans un cadre privilégié avec l'œuvre.
Ou lui, avait fait le commissariat un peu de la manière dont les œuvres devaient être présentées, la lumière devait être...
Ah oui, tout ça être réglé.
Très réglé.
Bon, parce que c'est sûr que mal exposé, ces œuvres perdent certains aspects de leur intensité de radiation. Donc oui, tous les deux, ils ont ce rapport-là avec Stahl, par exemple, n'a pas beaucoup d'intérêt pour l'art de son temps. Et ceux dont il parle tout le temps dans sa correspondance, c'est les peintres du passé. Mm-hmm. Et donc, effectivement, il va faire ce voyage en Italie. D'ailleurs, c'est un double voyage. On ne dit jamais qu'il en avait. Il est allé d'abord en février de la même année, puis il a été l'été, et où il va revoir tous les grands peintres de la Renaissance. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans sa bibliothèque à Ménerbe. J'ai même ouvert, tenu les livres qu'il a achetés à ce moment-là. Et c'est émouvant parce que vraiment, c'est cette recherche-là, cette recherche de la couleur des peintres de la Renaissance, mais aussi de ce rapport au sacré dans lequel ses œuvres étaient inscrites. Et chez Rothko, c'est le même... la même intensité dans ce rapport-là à ces peintres. D'ailleurs, ils vont dire un jour une phrase quasiment identique à propos Rothko, à propos de l'Antiquité. Ils ont tous les deux aussi été dans les sites Stahl, évidemment, tous les temples grecs de la Sicile, mais aussi Paestum, avec ses peintures antiques, ses fresques.
Ses fresques, oui.
Et suite à ça, ils vont tous les deux dire une phrase assez similaire, qui est, Rothko dit, finalement, j'ai peint toute ma vie des temples grecs sans le savoir. Et Stahl dit, je suis corps et âme, un fantôme qui peint des temples grecs. C'est quand même assez frappant.
C'est frappant, oui.
Et donc, c'est quand même que leur rapport à l'art a un rapport vraiment très archaïque, ancestral, avec ce geste premier de l'homme qui s'éveille face à sa présence dans le monde et qui essaye de traduire ces questionnements les plus essentiels et plus profonds à travers ce travail-là de la forme. Et tous les deux s'inscrivent là-dedans, donc forcément, ils sont...
Une filiation, finalement, qui est commune, où ils retrouvent une filiation commune l'un et l'autre.
Oui, je dirais même qu'ils sont... Il y a une similitude dans s'il y a plusieurs types d'artistes qui existent, il y a des gens qui sont beaucoup plus intéressés par la dimension formaliste, on va dire, de l'art. Dans leur recherche formelle, il y a une recherche également spirituelle.
Spirituelle, oui.
Et les deux sont, on peut pas les séparer. C'est d'ailleurs, j'irais même plus loin. C'est leur recherche humaine, leur recherche formelle et leur recherche spirituelle ne font qu'une.
Et vous avez, dans une autre interview que j'avais écoutée, vous avez mentionné aussi le peintre de la lumière, la couleur qui était présente chez l'un et chez l'autre, avec cette citation, en fait, à peu près en substance, de Rothko, qui était un moyen pour atteindre la simplicité. Il y avait une espèce de dépouillement ultime. Est-ce que c'est aussi un trait commun chez les deux peintres, ou est-ce que c'est un objectif de l'un et un moyen pour l'autre ?
Alors oui, c'est commun chez les deux peintres. Stahl dit dès le départ, quand il arrive au Maroc, dans la première page de son cahier, il écrit le mot « clarté ». Et puis dans ses lettres de jeunesse, l'obsession de la simplicité revient très 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 souvent. Et il sait qu'il va devoir lutter contre sa propre nature nerveuse, excessivement nerveuse, pour atteindre cette simplicité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il peint pas pendant les années 30 au Maroc, parce qu'il n'arrive pas à atteindre cette simplicité qu'il atteindra à Antibes lors des derniers mois de sa vie. Chez Rothko, il y a cette quête de la simplicité. D'ailleurs, il dit dans un de ses écrits, parce que Rothko a pas mal écrit, qu'il aimerait dire des choses complexes de manière simple, ce qui est pour moi le grand art. Et c'est vrai que ça rejoint quand même encore cette problématique des origines, parce qu'il y a cette notion d'effacement très fort chez Rothko. L'effacement de ses origines, c'est ça d'ailleurs qui m'a interpellé quand j'ai eu connaissance un petit peu de sa biographie, parce que déjà il s'appelle Rothkovitch, il a déjà changé son nom. Pour devenir un vrai peintre américain, Rothko. Et puis si vous prenez l'exposition à Louis Vuitton, le montre très bien, son évolution. Au départ, il peignait des visages, il peignait des lieux, et tous ces lieux, ces visages, se sont au fur et à mesure dilués. Et en fait, au lieu de représenter des formes du réel, il a formalisé des sensations, des sentiments, sous forme de couleurs, mise en scène en fait, quelque part sont enfouis derrière tout ça, toute l'histoire de l'humanité, mais qui s'est effacée dans ce rayonnement coloré.
Puisque vous parlez d'effacement, moi je reviens même au titre de votre livre, donc qui date de 2014, si je crois, le Rêver de ne pas être, Marc Rothko. Rêver de ne pas être, c'est déjà l'effacement aussi. Ne pas être, c'est une forme d'effacement dans votre même dans le titre que vous lui avez donné.
Oui, alors j'aime pas trop essayer mais je n'aime pas trop essayer de traduire dans un autre, dans une autre intelligibilité ce titre, parce que c'est un peu comme les œuvres, je trouve que ça doit parler de lui-même, mais je trouve que c'est assez vrai pour la peinture. D'ailleurs, ils le disent tous les deux aussi, chacun à leur manière. Ça, c'est que être peintre, comme être artiste ou même être écrivain, c'est quand même devenir autre chose que soi, en fait. C'est devenir un peu une non-personne ou personne.
Ou personne.
Quelque chose qui arrive à se détacher des entraves qu'on peut avoir à l'intérieur pour atteindre une forme de plénitude de l'être. Et donc, Marguerite Duras, elle disait « écrire, c'est n'être personne ». Et donc, c'est un peu un rêve d'être soi pleinement, débarrassé de toutes les choses qui nous ont embarrassés.
De l'enveloppe humaine et de ce qui nous embarrasse, en fait,
Oui. Alors, de l'enveloppe humaine, on pourrait la garder.
Mais
en tout cas, par exemple, le poids de ses origines, de cette espèce d'abîme originel... il faut parvenir en fait d'une certaine manière dans la création à inverser les forces destructrices en forme créatrice. et donc rêver de ne pas être pourrait être entendu comme quelque chose de négatif, mais en fait c'est rêver d'être absolument.
Alors, oui, on peut aussi le voir du côté, c'est une espèce de pureté, de dépouillement pour atteindre quelque chose de un stade beaucoup plus peut-être désincarné, mais en tout cas
oui,
plus...
mais c'est un stade où tout s'épouse en fait. Et tous les contraires se rallient, ne sont plus des contraires qui se combattent, mais soit une fusion. Et d'ailleurs, c'est ce que je pense aussi Nicolas de Staël atteint dans la période d'Antibes. Tout à coup, ce rapport conflictuel au réel se résout dans cette espèce de chant en fait très léger. Toutes ces peintures, c'était beaucoup pas léger. Mmh. Et le réel existe comme ça. Et en même temps, ce qui est assez contradictoire et que là je peux pas résoudre, c'est que chacun dans leur vie n'ont pas atteint cette plénitude.
Et pour...
Ils l'ont atteint dans leur œuvre.
Dans leur œuvre, mais pas
dans leur
vie.
Mais en même temps, Nicolas de Staël a dit, oui, finalement, que il faudra qu'il se débarrasse de sa carcasse d'être humain. Ouais, donc, oui. Peut-être aussi, on peut ne pas voir ça si négativement que ça. Mm-hmm. Je ne sais pas. Moi, je veux pas. C'est un destin, c'est un choix. Enfin, un choix, c'est un mot un peu peut-être inapproprié. Mais
c'est
la voie qui a été la sienne.
C'est tout à fait, oui. Je reviens sur votre livre, donc sur Nicolas de Staël, Le Vertige et la foi. Donc, il y a à peu près 10 ans, vous parliez effectivement de ce feu créatif, la foi, qui poussait de Staël à des choses sublimes, le feu qu'il consumait aussi en même temps. Et puis, à l'opposé, à l'extrême, il y avait le vertige qui l'entraînait vers des affres et de la souffrance. Votre dernier ouvrage qui est sorti à l'occasion de l'exposition Nicolas de Staël au musée d'art moderne de la ville de Paris, La peinture comme un feu. Vous apportez dans cet ouvrage d'autres éléments, une nouvelle lecture ou un complément de lecture par rapport à ce que vous aviez pu écrire auparavant sur un registre différent?
Alors là, c'est une monographie, hein, donc c'est vraiment un beau livre avec à la fois dans la partie biographique des documents liés à sa biographie, et une deuxième partie avec un portfolio qui reprend une centaine d'œuvres que je trouve vraiment très très bien reproduites d'ailleurs. Et alors dans la partie biographique, ça m'a permis, parce que comme vous le dites, ça fait 10 ans du premier livre, j'ai appris beaucoup de choses depuis, notamment j'ai coécrit le documentaire pour Arte, La peinture à vif, sur Nicolas de Staël, qui a nécessité un grand travail d'archives et qui m'a fait découvrir des aspects ou approfondir des aspects que j'ignorais. Et ça m'a permis d'avoir des informations supplémentaires, mais aussi des vues peut-être plus... Rien de ne s'est contredit par rapport...
Oui, c'est ça, bien sûr. Non.
Mais plutôt...
Approfondi.
Et donc, la deuxième partie, c'est un peu ça, la partie très inédite du livre, c'est que je fais vraiment une étude... très détaillé de l'évolution picturale de Nicolas de Staël, qui est très courte en fait, hein, puisque c'est de lui estime que sa peinture démarre en 41 et il se suicide en mars 54,
donc c'est 15 ans.
55,
c'est 15 ans.
Donc oui, c'est une petite
quinzaine d'années.
Et je distingue donc 10 périodes donc il y a toute la période de l'abstraction qui prend les années 40. Et puis le retour à la figuration à partir, je trouve, de son livre avec Char en 51. Et donc j'ai essayé, parce que c'est compliqué, mais il y a quand même des styles qui se détachent. Et donc j'ai fait 10 périodes. Après, chez Staël, il y a quand même des porosités entre les périodes, mais il y a quand même des caractéristiques... parce que Staël était quelqu'un qui voulait vraiment se renouveler à chaque œuvre, pas à chaque période, mais à chaque œuvre. Donc il n'y a aucune œuvre qui vraiment entre dans un moule d'un style. Donc aujourd'hui, quand on reconnaît un Nicolas de Staël, c'est un peu contradictoire parce qu'il n'y a pas un style Nicolas de Staël. Mais enfin, on voit bien que c'est le style plutôt des blocs qui est resté comme ça en tête. Mais vraiment, c'est ça qui est intéressant dans l'exposition, c'est que on peut se repencher et se reprendre du temps pour chaque période et voir à quel point il y a une recherche créatrice dans chaque période et qu'il n'y en a pas... Bon, bien sûr, on peut en préférer l'une ou l'autre, mais moi, chaque fois que je retourne à l'expo, j'ai déjà été 4 fois, je pense avoir trouvé un fil et puis j'en découvre d'autres.
J'en découvre d'autres, c'est ça. Ouais.
Et puis, ce qui est très impressionnant, c'est que, c'est, on le dit souvent pour la peinture en général, mais à quel point les reproductions ne peuvent pas rendre compte du travail de Nicolas de Staël, parce que il y a vraiment un travail sur la matière, bon, pas comme les matiéristes où ils faisaient de l'épaisseur pour faire exister la matière, mais ici c'est pour vraiment faire exister différentes couches de réel à travers la surface. Et ça, on peut le voir qu'en vrai, en fait.
Et ça, ben, voilà, c'est tout l'intérêt finalement de voir et revoir cette exposition, parce qu'on voit des choses différentes à chaque fois. On a un biais qui évolue au fil de la centaine d'œuvres présentées, des 200 œuvres présentées, et surtout des œuvres qui n'ont pas forcément été beaucoup vues par le passé, notamment les petits formats, certaines œuvres qui étaient dans les collections privées. Donc tout l'intérêt de l'exposition.
Oui, je crois qu'il y a 30% des tableaux qui viennent de collections privées.
Donc c'est à la lumière finalement des écrits de Stéphane Lambert que comme lui nous vous invitons finalement à venir à revoir et à revoir encore l'exposition au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris qui est jusqu'au mois de janvier. L'exposition Marthe Krotko à la Fondation Vuitton jusqu'au mois d'avril. Et puis surtout, à vous plonger dans les écrits de Stéphane Lambert. Le vertige et la foi, Nicolas de Staël. Rêver de ne pas être, Marthe Krotko. Et la peinture comme un feu, son dernier opus, sans oublier le documentaire sur Arte. Merci Stéphane Lambert.
Merci à vous.
Et en guise de conclusion, moi je voudrais citer Anna de Staël qui disait à propos du livre Le vertige et la foi. On entend le silence d'une couleur portée à son timbre ultime par le mot. C'est bien le genre d'émotion que procure la lecture des livres de Stéphane lorsqu'on parle de grands auteurs comme Nicolas de Staël et Marthe Krotko. Merci beaucoup, Stéphane.
Merci à vous.
Merci.
C'était Art Interview sur Art District Radio, une émission à retrouver en podcast sur notre site internet.